13h38 minutes sur les ondes de Boulevard 102.1, c'est l'émission On en jase. Après l'émission, c'est le retour de Gravel avec Denis Véraud et Audrey Pinchot qui est de retour. Vous l'avez entendu dans l'open mic ce matin, une reprise de Marceau le soir à 18h. Demain matin, Jeff Fortin, Pascal CV et Max Larouche dans Marceau le matin parce que Marceau revient seulement lundi prochain. On vous le rappelle, allez vous abonner à notre page YouTube. Pourquoi? Parce que vous allez retrouver les meilleurs podcasts, vous allez retrouver les pit stops, vous allez retrouver les caucus avec Antonine Iacarini qui revient la semaine prochaine. Vous allez retrouver les open mic également. Et parlant de podcasts, on va commencer l'enregistrement d'une nouvelle série de podcasts hors série qui vous sera présentée là, en cours de saison. Et présentement sur la chaîne YouTube, il y a les podcasts des grands événements avec Denis Gravel. Sommet des Amériques avec Agnès Maltais, c'était très bon également. On en parlait avant la pause, ça brasse énormément en Iran à l'heure actuelle. Plusieurs manifestations, les gens en ont contre le coût de la vie, pas juste au Québec que le coût de la vie a augmenté contre le régime dictatorial qui est présent à l'heure actuelle là-bas. Et pour en parler avec nous, on parle avec Daniel Dweck, qui est à la faculté de sciences politiques à l'Université de McGill. Monsieur Dweck, bon après-midi.
Merci beaucoup, et à vous aussi.
Oui. Est-ce que c'est surprenant ce qui se passe en Iran ou avec ce qui s'était produit en juin dernier, Israël et les États-Unis qui avaient bombardé des endroits stratégiques militaires? On pouvait s'attendre à ce que la population demande de plus en plus un changement de régime?
Oui, je pense que c'est sûr que la guerre de 12 jours au mois de juin à accélérer ce processus, mais il faudrait pas dire que ça l'aurait entamé, puisque depuis 2009, il y a eu des manifestations sur une échelle nationale à travers l'Iran, souvent avec des pauses, mais on a toujours pu constater qu'il y avait une majorité de la population qui ne voulait plus vivre avec ce régime. Donc, avec la crise économique aussi qui s'est produite récemment, on voit que les circonstances ont été propices pour ces manifestations-là.
Encore beaucoup de décès dans la dernière manifestation. On rapporte les chiffres dans les dernières heures, en fait. Ce qu'on apprend, ben, c'est des pertes, en fait, de civilisation assez importantes. Surtout que ça se fait dans une bonne violence. On parle de 2 morts et 30 blessés dans les derniers affrontements dans une manifestation à Lord Ghent. Ça, c'est dans le sud-ouest de l'Iran. Est-ce qu'on peut parler plus grandement de cette situation-là? Parce que là, on parle des manifestations en Iran, mais au Moyen-Orient en ce moment, la position du Moyen-Orient face à tout ce qui se décline dans le monde, face à Donald Trump, face à Israël, comment est-ce qu'on voit les choses sous votre œil à vous?
Bien, l'Iran, depuis la révolution de 1979, avait, la révolution islamique avait adopté la position pour sa politique étrangère de confrontation avec leur slogan de mort aux États-Unis, mort à l'Israël. Ils ont investi des milliards de dollars dans un programme nucléaire, puis ils ont investi également beaucoup de milliards pendant des décennies pour des milices pro-iraniennes au Liban, en Syrie, en Irak, en Yémen, pour promouvoir cette politique étrangère. Puis là, depuis, en fait, la guerre entre Israël et le Hamas qui s'est déclenchée le 7 octobre 2023 avec l'assaut du Hamas au sud de l'Israël, l'Iran était le seul pays à déclarer ouvertement que c'était une bonne chose qu'il y avait cet assaut-là, de soutenir les missiles qui ont tiré le Hezbollah à partir du Liban envers Israël à partir du 8 octobre 2023, ce qui a déclenché la guerre entre Israël et le Hezbollah en 2024, qui a plus ou moins détruit le Hezbollah comme force militaire. Et après ça, des confrontations directes avec l'Iran. Donc, il faut comprendre aussi le choix qu'ils ont pris les ayatollahs en Iran de privilégier la confrontation contre les États-Unis et l'Israël aux dépens vraiment de leur propre population, puisque ces milliards de dollars qu'ils auraient dépensés, ils auraient pu investir dans leur économie nationale, mm-hmm. dont on trouve en Iran maintenant le slogan des manifestants « Ni Liban, ni Gaza, nous sommes prêts à mourir uniquement pour l'Iran », qui veut dire justement que la population n'a aucun intérêt à dépenser leurs ressources ni de risquer leur vie pour des guerres étrangères, mais plutôt qu'ils demandent un gouvernement qui viendrait investir dans l'avenir du pays et de sa population.
Donc, comment la population peut s'y prendre dans un régime où il n'y a pas nécessairement de démocratie là, d'implanter avec des élections à date fixe? Comment qu'on peut faire pour tenter de changer les choses lorsqu'on sait que à chaque manifestation, présentement, il y a des morts et des blessés?
Oui, c'est justement la question. C'est à cause de ça que le régime a pu rester en vie. Comme j'ai dit, il y a eu plusieurs manifestations, des vagues à travers le pays, plusieurs fois depuis 2009, mais le régime n'est pas tombé jusqu'à date. Puis c'est à cause justement des forces de sécurité, des forces de renseignement qui demeurent prêts à tirer sur les manifestants. Donc, il faut chercher un tournant là où il y aurait des soldats qui seraient plus prêts à tirer sur la population ou encore où les manifestants viendraient peut-être envahir des bases militaires ou peut-être il y aurait même des soldats qui changeraient de côté et qui seraient prêts à lutter contre le régime. Tout ça serait des signes qui pourraient entamer le déclin et qui pourraient faire tomber le régime. Jusqu'à date, on n'a pas vu ces signes-là, mais lorsqu'un régime tombe, ça arrive d'abord graduellement, puis tout d'un coup, subitement. Donc, ça pourrait avoir lieu, et j'ai déjà vu des rapports indiquer comme quoi le Ayatollah Khamenei, le chef d'État qui a 86 ans, serait prêt à monter sur un avion militaire pour s'enfuir à Moscou, comme l'a fait le dictateur syrien Bachar al-Assad en décembre 2024. C'est-à-dire, il ne le fait pas encore, mais si la situation viendrait détériorer, ça serait un potentiel étape qu'il serait prêt à prendre. Donc, il faut surveiller le tout de près parce que ça pourrait basculer bientôt.
Monsieur Daniel Dweck, qui est à la faculté en sciences politiques du côté de l'Université de McGill et spécialiste en termes de politique internationale. Merci beaucoup pour le temps que vous avez passé avec nous ce midi et au plaisir de se reparler.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci. Au revoir. Donc, une situation qui va être à suivre avec énormément d'attention, Pascal, en Iran. Puis, on le dit pour le Venezuela, la même chose pour la Syrie, l'Iran. Tous ces régimes-là qui sont gérés à présent par des dictatures, c'est pas nécessairement quand le dictateur part que le peuple est libéré. On le voit présentement au Venezuela, en Syrie, il y avait encore des attaques meurtrières qui se sont produites pas plus tard qu'hier. Donc, c'est du processus à très, très, très long terme. Mais déjà là, que la population soit dans les rues pour demander plus de liberté, plus d'autonomie, c'est déjà un pas en avant.
Absolument, puis c'est vrai qu'en termes de stabilité puis de sécurité internationale, l'Iran joue un rôle clé au Moyen-Orient. Oui. Puis nous l'a bien expliqué, c'est des tensions avec Israël, avec les États-Unis ou dans le Golfe Persique aussi qui sont à considérer. Puis ça peut dégénérer rapidement. Puis c'est ça qu'il nous dit, il dit « OK, il va falloir le suivre parce que ces risques-là sont à nos portes et c'est des répercussions mondiales. Conflits armés, terrorisme, sécurité maritime. Le Canada, comme allié de pays occidentaux, est directement concerné dans une situation comme celle-là. Puis on l'a très bien dit, tout ce qui est prolifération nucléaire, l'économie mondiale, l'inflation, la communauté aussi irano-canadienne. Il y a au Canada une importante diaspora iranienne. Ça compte là-dedans. Les droits de la personne, on fait quoi avec ça? Si on s'en vient qu'à se coltailler aussi, on va être dans deux façons de voir les choses totalement différentes. Puis surtout la cybersécurité, je veux dire, ils sont en avance sur beaucoup de choses. Pas autant qu'Israël, mais sont très, très, très avancés, contrairement à nous, dont un expert ce matin nous traitait de cancre.
Oui, exactement.
Pas nous en studio, mais le Canada en entier.
Oui, imagine. Le Canada en entier au niveau de l'intelligence artificielle. Pendant ce temps-là, bien, aux États-Unis, il y a justement là, la porte-parole au niveau de la Maison-Blanche qui a déclaré que c'est la porte-parole, c'est Caroline Leavitt, qui a déclaré « Nous restons en étroite coordination avec les autorités par intérim en parlant du Venezuela et les États-Unis vont continuer à dicter leurs décisions. Nous disposons évidemment d'un effet de levier maximal sur les autorités par intérim. » Alors, ça va être une semaine très chaude dans le coin du pays, là, dans le coin du Venezuela. Il n'y a pas de doute là-dessus, surtout avec ce pétrolier russe là, qui a été saisi par les États-Unis.
Oui.
Donc, à suivre, il y a énormément de conflits à l'international. On en parle parce que ça a des répercussions énormes, la géopolitique, ici même au Canada, que ce soit sur notre économie ou la façon que le monde se passe à l'heure actuelle et la façon de vivre qui va être impactée un peu partout dans le monde. Donc, c'est pour ça qu'on en parle énormément. Sinon, dans l'actualité, qu'est-ce qu'il y a à suivre? Peut-être un petit peu plus près de chez nous?
Oui, mais c'est sûr que tout est interrelié souvent. Hein? Alors, c'est difficile de ne pas parler, entre autres, de Mark Carney qui va se rendre en Chine pour rencontrer Xi Jinping du 13 au 17 janvier. Une rencontre importante. On veut renforcer la collaboration entre les deux pays, mais surtout au niveau du commerce, de l'énergie, de l'agriculture et de la sécurité internationale.
Ouais. Moi, Pascal, là, j'ai tellement de la difficulté avec ça. Puis là, c'est sûrement parce que je suis quelqu'un d'un petit peu trop, avec des valeurs un petit peu trop humaines. Mais j'ai de la misère à me boucher le nez et à me fermer les yeux sur les conditions des droits de l'homme, des droits de la femme, en disant « Bah, on va devenir un pays transactionnel. Ah! » Ça, j'ai un frisson qui me passe à la colonne vertébrale.
Oui, j'entends ton malaise, puis je le partage. Puis en même temps, tu sais, souvent on dit qu'il faut rester proche de nos ennemis pour être capable d'avoir un certain contrôle.
C'est vrai.
Pas sur l'ennemi en question, mais sur notre propre pays, au niveau de la politique internationale. Parce que si on n'a pas de discussion, les communications sont fermées, il n'y a pas d'avancée, puis il n'y a surtout pas d'information qui
en ressort. En effet, c'est un excellent point. L'éloignement qu'on a pris avec la Chine depuis 2017, celui que Victor Henriquez nous expliquait, n'est pas nécessairement positif. T'as
non, puis l'affaire, c'est que j'ai eu des fois des conversations avec Jean-François Lépine, hein, qui a été envoyé spécial en Chine.
Oui.
À plusieurs reprises, on se mettait à jaser de ça, lui et moi, et ce qu'il me disait, c'est d'abord et avant tout, les Chinois respectent ceux qui se tiennent. En Chine, si un premier ministre y va, il plie à tout. Et il accepte tout. Hein, des demandes chinoises, il est vu comme un faible. Donc, il n'y a plus de respect de la part, entre autres, de Xi Jinping. Et ça, Mark Carney devra faire attention. Parce que s'il veut des pourparlers d'égal à égal, il faut qu'il ait en tête cette façon de faire-là. Mm-hmm. On a coupé dans beaucoup de choses. On a coupé aussi dans tout ce qui est ambassade au niveau de la Chine. On a eu des conflits importants. Mais la Chine, son seul devoir depuis des années, c'est de devenir la plus grande puissance économique au monde.
Exactement.
On veut tout faire. On a pris du retard avec la pandémie. Donc, qu'est-ce qui va être discuté? On n'a pas eu un premier ministre canadien en sol chinois, du moins, pour discuter depuis 2017. C'est à des années-lumière de 2026, là, quand on regarde
ça.
Au niveau de la politique, c'est long, là. Et on a laissé beaucoup entre les mains des États-Unis. Peut-être que c'est là où on va aller rechercher un peu comme une couleuvre, ce qu'on pourrait aller rechercher. Mais moi, ce qui pourrait m'inquiéter, c'est l'énergie, l'agriculture, la sécurité internationale. Parfait, le commerce, on ne peut pas passer à côté.
Non, en effet.
L'énergie, ou attention, à quel prix? L'agriculture, nos terres, on n'a pas la même éthique d'agriculture que les Chinois peuvent avoir dans leur propre pays, donc pas la même vision.
T'as entièrement raison. Et on parle depuis le début de la semaine de sécurité alimentaire aussi, donc l'agriculture vient jouer un grand rôle.
Puis il y a eu des terres achetées par des étrangers à grand prix, juste pour avoir le contrôle de ces terres-là, ici au Canada. Moi, ça m'inquiète un peu. Et la sécurité, du moins, je reste sur mes gardes et je reste intéressée au dossier. Puis la sécurité internationale, c'est partout dans le monde où maintenant il y a des objets technologiques qui sont proscrits, qu'on n'a plus le droit d'avoir dans des pays en provenance de la Chine.
Oui.
Pourquoi? Parce que c'est une société, un gouvernement qui est hautement en avance au niveau information, récupération d'informations de systèmes technologiques. Va pas falloir plier aux grandes dames de notre sécurité technologique. Ça veut dire qui vous observe, qui vous entend, qui prend vos informations. Parce qu'on parle d'une guerre économique en ce moment. Une guerre / pétrolière, tu sais.
Oh oui.
Puis guerre étant un mot que moi je choisis, il n'y a rien qui a été proclamé ça dans le monde. Mais attention, ça devient des affrontements technologiques Là, on est dans la merde.
Ah oui, on est dans la merde parce qu'on est tellement en retard sur la Chine. Alors, et ça, c'est pas juste au niveau du Canada, c'est le monde occidental au grand complet.
Et il faut pas y avoir des œillères là-dessus en se disant « Bah, c'est pas aujourd'hui. » Fait que pas ouais. vraiment besoin de travailler là-dessus. Là.
Non, ça se prépare petit pas par petit pas.
À chaque demande.
Ce genre d'intervention-là, je suis entièrement d'accord avec toi. Autre chose dans l'actualité?
Oui, bien là, si tu veux qu'on se rapproche un peu plus. Glissement à Rivière-Éternité. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Ça s'est passé il y a 2 ans et demi. 1er juillet 2023, il y a des pluies torrentielles qui ont fait glisser des parties d'un terrain sur une route. Et c'est la route qui menait au Parc national du Fjord du Saguenay. Ça a causé 2 morts, 1 blessé grave. Tragédie. Et il y a eu un genre de jeu de coulisses en cours parce que la SAAQ avait plaidé que c'était un geste qui n'était pas considéré comme étant indemnisable parce que les victimes étaient sorties de leur voiture à ce moment-là. Mais on a réussi à prouver en cours que les victimes faisaient usage d'une automobile. Donc, c'était considéré maintenant comme un accident d'automobile et les 6 personnes en cause ont tous été proclamées victimes par le tribunal administratif du Québec. Ils vont pouvoir être indemnisés. C'est la bonne nouvelle.
C'est la très, très bonne nouvelle. Partisan du Canadien comme toi, Pascal?
Oui, moi.
Oui, toi. Oui. Le Canadien de retour à domicile ce soir, 19h30, face aux Flames de Calgary. Mais là, il y a un joueur qui va vivre énormément d'émotions. Et c'est le numéro 24 du Canadien de Montréal, Philippe Dano. Parce que c'est son retour à Montréal. Il est revenu avec l'équipe depuis le 23 décembre, mais l'équipe avait juste joué à l'étranger. Et Philippe Dano, il est très connu pour la course à la Coupe Stanley du Canadien en 2021, alors que le Canadien de Montréal venait d'éliminer les Golden Knights de Vegas en semi-finale. Il s'est présenté le jour de la Saint-Jean-Baptiste en français, s'il vous plaît, devant les médias, avec la pizza, puis il a dit « On s'en va gagner la Coupe Stanley ». Mais finalement, le Canadien a perdu en 5 contre le Lightning de Tampa Bay. Mais c'est le retour d'un joueur que les gens adoraient à Montréal ce soir au Centre Bell. Philippe Dano, il va avoir énormément d'émotions. Match à 19h30 à suivre contre les Flames de Calgary. C'est le jeune Jacob Fowler, de 21 ans, qui sera devant le filet. Donc, évidemment, demain matin, dans Marceau le matin, avec Max Larouche, on va faire un beau grand tour. On va regarder en long et en large la performance de Jacob Fowler. Parce que moi, je continue à te le dire, c'est Jacob Fowler qui va être le gardien de but numéro 1 du Canadien jusqu'à la fin de l'année.
Je te le souhaite.
Alors que Max Larouche continue avec son Jacob Dobesch. Non, ça va être Jacob Fowler qui va être devant le filet du Canadien jusqu'à la fin de la saison. Pascal, c'est un bonheur d'avoir fait 6 heures de radio avec toi.
Oui, c'est un plaisir qui est partagé déjà 6 heures.
On refait ça demain.
Oui, sans faute.
À compter de 6 heures dans Marceau le matin, le retour de Gravel qui suit à l'instant même avec Denis, Véro et le retour d'Audrey Pinchot. Passez une belle fin de journée sur nos ondes. À demain, guys.